Spotkania europejskie.
Treffpunkt Europa.
Kuzynią tutaj Europę.
Stavrodromy tis Europis.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'affaire LuxLeaks, révélée par une enquête journalistique internationale, a mis en évidence un système d'accord entre les plus grandes entreprises multinationales et le Grand-Duché du Luxembourg. Un système baptisé Tax Ruling qui leur permet de s'affranchir de l'impôt qu'elles devraient payer normalement dans les autres les États de l'Union Européenne, là où elles exercent leur activité. Ce système prospère via des sociétés écrans. Le Luxembourg abrite ainsi plus de 100 000 entreprises, plus ou moins fictives, pour une population d'environ 500 000 habitants. Question, le Luxembourg est-il au cœur de l'Europe un État voyou? Non, au regard des textes européens actuels, mais le système peut-il perdurer à un moment où tous les États de l'Union Européenne peinent à boucler leur budget et que les citoyens sont obligés de payer les impôts dont les entreprises ne s'acquittent pas ou peu? Plus globalement, l'Union Européenne, confrontée à la montée des populismes, peut-elle survivre sans un minimum d'harmonisation fiscale? Question subsidiaire. Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission Européenne, qui fut 18 ans durant le Premier ministre du Luxembourg, est-il le mieux placé pour mettre un peu d'ordre dans la maison européenne? Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Vous êtes députée socialiste à l'Assemblée nationale, rapporteur général du budget. On dit rapporteur et pas rapporteuse.
On dit rapporteur-e.
Rapporteur-e. Franck Engel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé luxembourgeois, membre du PPE, le Parti Populaire Européen. Merci d'être en ligne du Parlement Européen à Strasbourg en pleine session en ce moment. Jean-Paul Gozaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, ex-eurodéputé UMP-PPE et vous êtes beaucoup occupé de tout ce qui est harmonisation fiscale au sein de l'Union Européenne jusqu'en mai dernier lorsque vous étiez encore député. Christian Chavagneux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste éditorialiste au mensuel Alternative Économique. D'un mot, Alternative Économique, s'il fallait définir.
Un mensuel d'information critique qui est maintenant une décline sur le net, Alter Eco Plus.
Et ben voilà, c'est dit. Christian Chavagneux, justement, pour le commun des mortels, l'idée de ne pas payer ses impôts est difficilement imaginable. Alors comment font des sociétés comme Amazon, Ikea, Starbucks ou Pepsi, on pourrait en citer des dizaines d'autres, pour ne pas payer d'impôts en passant par le Luxembourg?
Il y a plusieurs méthodes. Au Luxembourg, on peut généralement établir des filiales financières qui vont vous prêter à une filiale qui est par exemple en France ou en Allemagne. Et vous savez que comme toute personne à qui on fait un prêt, il faut rembourser le prêt, notamment payer des intérêts. Les intérêts d'emprunt sont déductibles de la base fiscale. Donc si vous avez un prêt d'une filiale située au Luxembourg, et beaucoup de multinationales ont des filiales financières situées au Luxembourg, qui font des prêts, par exemple, à une filiale française, et lorsqu'elle paye les intérêts, elle déduit d'autant sa base fiscale. De manière générale, quelle que soit la méthode, le principe, c'est d'arriver à découpler le lieu où les profits sont réalisés et le lieu où ils sont enregistrés et taxés. Le Luxembourg est spécialiste de l'offre de produits financiers qui permettent de faire ce déplacement.
Alors, on réalise des profits en France, pour Amazon France, par exemple.
Exactement.
Et puis,
on peut les déclarer grâce à des produits financiers. Quelle que soit la technique, il y en a de multiples, des produits financiers hybrides très compliqués, mais quelle que soit la technique, ça revient toujours au même. Les profits sont faits en France ou en Allemagne, ils sont déclarés au Luxembourg.
Alors Valérie Rabault, pour la rapporteure de la Commission des Finances et du budget que vous êtes, ça doit quand même poser un problème, car pour prendre l'exemple des impôts qu'Amazon devrait payer en France pour ses activités exercées sur le territoire national, mais qu'elle ne paye pas, eh bien ce manque à gagner contribue au déficit du budget de l'État que justement cette même Commission européenne reproche à la France.
C'est exactement ça.
J'ai tout dit.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la richesse qui est produite en France, elle est produite parce qu'il y a des salariés qui sont compétents pour la produire. Il y a des infrastructures, mais il y a de la créativité aussi. C'est pas tout dû aux infrastructures, mais n'empêche que cette richesse, elle doit contribuer à la solidarité nationale, c'est-à-dire à payer un bout d'impôt en France. Et aujourd'hui, eh bien, elle part dans d'autres pays qui ont des fiscalités plus privilégiées. C'est pas un problème que de la France. On est tous dans le même bateau. C'est un problème de l'Allemagne, c'est un problème du Royaume-Uni, c'est un problème de l'Italie. Et c'est ça qui est dans la démarche qui est en train d'être menée par l'OCDE, mais pas que, c'est que on veut pouvoir retrouver cette souveraineté fiscale qui est indispensable. C'est une souveraineté fiscale des États. C'est un peu comme si on se faisait, allez, je vais y avoir un mot un peu fort, mais qui reflète un peu la réalité, voler la richesse qui est produite ici, chez nous, par des salariés français.
Jean-Paul Gozaz, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Valérie Rabault, même si vous n'êtes pas du même parti. Valérie Rabault, Parti Socialiste, vous, UMP.
Je crois qu'il y a un mot que je retiens dans ce qui a été dit, c'est retrouver la souveraineté fiscale. C'est justement parce qu'il y a la souveraineté fiscale qu'il y a l'évasion. Puisque chaque État va organiser sa fiscalité de la façon qui lui convient, et à partir de ce moment-là, on ne peut pas en vouloir aux contribuables de chercher la solution la moins coûteuse pour eux. Je crois que le réalisme ça n'est pas simplement de dire il y a de l'évasion, on perd de l'argent, c'est de dire faisons ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus d'évasion. Il n'y aura plus d'évasion le jour où il n'y aura aucun intérêt à faire passer la frontière à des dividendes ou des profits ou à des prêts ou à des intérêts et où on aura une harmonisation de la fiscalité. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui ne veut pas aujourd'hui d'harmonisation de la fiscalité ? Ce sont les États. Pourquoi ? Parce que chacun veut être maître chez lui sur sa souveraineté. C'est vrai que entre la politique fiscale du Luxembourg et la politique fiscale de la France, il y a une différence majeure pour les contribuables. Mais si on n'avance pas dans l'harmonisation, on n'évitera pas l'évasion fiscale.
Alors un mot de Valérie Rabault, puis on va quand même donner la parole à Franck.
Je serais ravi que vos collègues UMP de la commission des finances vous entendent, parce que lorsqu'on propose effectivement quelques amendements qui visent à dire, quand je parle de souveraineté fiscale, c'est la souveraineté fiscale des pays européens sur la richesse produite sur le sol européen. Ah, et c'est autre chose. Et c'est aussi cette capacité du fait que le peuple ne se fasse pas déposséder de cette richesse qui est produite ici sur notre territoire. Mais je serais ravi que vos collègues UMP de la commission des finances vous entendent, parce que quand on propose 3 amendements qui visent un tout petit peu à réduire ou en tout cas à donner de la transparence sur ces processus, ils votent contre et j'en suis fortement désolé.
Alors on va donner la parole au collègue du PPE de Jean-Paul Gauzès, Frank Engel. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois, je l'ai dit, vous appartenez au même parti que Jean-Claude Juncker qui fut 18 ans durant donc le premier ministre du Grand-Duché et le ministre des finances de ce même Grand-Duché. Autrement dit, l'homme qui a cautionné ce système, le Luxembourg qui accapare les ressources fiscales de ses voisins, est-il un État voyou, Franck Engel ?
Je crois que je n'ai pas besoin de répondre à cette question parce que la terminologie...
Mais allez-y quand même !
Écoutez, la terminologie se disqualifie elle-même. Si nous étions un État voyou, on nous traiterait comme la Corée du Nord, n'est-ce pas ? Je proteste vigoureusement contre cette velléité qui existe en France, mais également ailleurs, pour faire comme si nous étions le dernier parasite de la communauté européenne et internationale des nations. Le Luxembourg participe à une compétition fiscale internationale. Et le Luxembourg participe à cela en tant que centre financier majeur qui, soit dit en passant, salarie chaque jour sur les 100 000 Français travailleurs frontaliers que nous avons, quelque chose comme 80 000 salariés français sur le territoire du Luxembourg qui n'auraient pas beaucoup de pouvoir d'achat chez eux en France autrement. Donc, tout cela se tient. Moi, je ne vais pas prétendre que le modèle fiscal de Luxembourg est ce qu'il y a le plus noble et le plus éthique au monde. Mais alors, nous ne sommes pas les seuls à participer à cette, comme je l'ai dit, compétition fiscale. Et ce n'est pas le Luxembourg non plus qui jusque-là a bloqué toutes sortes de progrès en matière fiscale en Europe. Mais si j'entends souveraineté fiscale, ça me rappelle chaque démarche qu'a faite Jean-Claude Juncker à l'époque, quand il était Premier ministre, ministre des Finances, président en exercice du Conseil, président de l'Eurogroupe. Donc, tout cela en des responsabilités nationales. Hein. Chaque fois qu'il voulait, par exemple, parvenir à un progrès européen pour une base fiscale consolidée en matière d'imposition des collectivités, il a échoué parce que d'autres États membres de l'Union européenne ont bloqué cela, étaient contre. Nous montrer du doigt est très pratique.
Alors, on a bien compris.
C'est également très borné.
Franck Engel, on a compris que ce système de tax rolling, on dit aussi déclaration fiscale anticipée, qui enrichit le Luxembourg, car on peut rappeler que le PIB par habitant du Luxembourg est le plus élevé de l'Union européenne. Mais on peut dire aussi, et vous l'avez dit, que le Grand-Duché est loin d'être le seul à se livrer à une politique favorisant l'optimisation fiscale, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Petite revue de détails européenne de l'optimisation fiscale avec Maria Afonso.
De nombreux pays européens comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Irlande ou la Belgique recourent à l'optimisation fiscale. Et ils sont 22 pays membres sur 28 à vouloir rendre leur environnement économique plus attrayant pour les investissements étrangers. Différents schémas financiers sont possibles. L'un d'eux s'appuie sur la directive européenne Société mère et filiale, qui est parfaite pour cela selon Fiducius Offshore, une entreprise suisse spécialisée dans l'accompagnement de création de sociétés offshore. Extrait de l'une de leurs vidéos.
Comme nous parlons de l'Europe, il est intéressant de souligner que la Lettonie a 0% d'impôt depuis janvier 2013 sur tous les revenus provenant de dividendes. Conclusion, si vous créez une entreprise en Europe et que vous voulez économiser sur vos impôts, ayez toujours une société en Lettonie pour la tenue de vos actions. Vous économiserez près de 50% de vos impôts en ayant une organisation intelligente.
Quant à la Belgique, elle propose les intérêts notionnel.
Ils permettent aux entreprises qui investissent sur fonds propres de déduire des intérêts fictifs, comme si l'investissement avait été réalisé par un emprunt. Avec ce système, une vingtaine d'entreprises ont payé 180 millions d'impôts, un chiffre dérisoire selon le Parti des travailleurs, qui a révélé l'année dernière le classement des 20 entreprises qui déduisent ces intérêts notionnels. Raoul Edebout, porte-parole du Parti des travailleurs.
Si ces 20 entreprises, seules ces 20 entreprises, payaient l'impôt normal en Belgique des sociétés, qui est de 33,99%, elles devraient en fait payer en supplément 2,38 milliards d'euros au denier public. Donc on voit vraiment la perte que signifie pour le pouvoir public ces intérêts notionnels.
D'autres pays européens ont choisi la patent box, autrement dit la boîte à brevets.
Cette fois-ci, il s'agit d'un régime qui permet une taxation réduite sur les revenus issus de la propriété intellectuelle. De nombreuses multinationales rapatrient donc leurs profits vers les pays où ces boîtes à brevets ont été créées, comme Chypre, la France, le Royaume-Uni, la Hongrie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Les brevets, les dessins industriels, le savoir-faire ou même des expériences commerciales reçoivent des incitations fiscales très favorables lorsqu'il s'agit d'innovation. Elena Garcia de la Torre, directrice de Lindwell, un cabinet d'avocats, explique l'attrait de la boîte à brevets en Espagne.
Il s'agit d'une incitation fiscale réellement avantageuse et attractive, parce qu'elle permet que les recettes qui sont investies dans l'innovation aient un traitement fiscal très avantageux. 60% sera déduit.
Chaque État membre participe ainsi à la course au moins-disant fiscal, en se concurrençant pour attirer les entreprises par des mesures d'évitement de l'impôt. Des politiques fiscales du ressort des États membres qui, dans le contexte économique actuel, devraient tôt ou tard être harmonisées pour la bonne marche de l'Union européenne.
Ces vidéos dont nous avons extrait le son sont à voir sur la page de l'émission via le site RFI.fr et sur la page Facebook de l'émission RFI Carrefour de l'Europe. Christian Chavagneux, quand on écoute ça, on se dit l'imagination fiscale a pris le pouvoir.
Ça, c'est sûr, mais... Mais en tout cas, on ne parle pas ici de concurrence fiscale ou d'harmonisation fiscale. Ça va bien plus loin. La concurrence fiscale, c'est dire je vous propose un taux d'impôt un peu inférieur. Donc venez chez moi. C'est pas du tout ça dont on parle au Luxembourg. On parle d'accords secrets, opaques, qui font que certaines entreprises payent entre 0,5 et 3% d'impôt. C'est négocié de gré à gré dans des conditions les plus opaques possibles avec le fisc luxembourgeois. C'est ça dont on parle. On est dans l'optimisation fiscale agressive, nous dit l'OCDE. Est-ce que c'est légal? Parce que la réponse sera au Luxembourg, c'est, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est légal. Un, la légalité de ces mécanismes n'a jamais été testée, très rarement été testée. Personne n'est venu dire, telle entreprise a bénéficié de ces accords et pas moi, c'est un problème. C'est ce que la Commission est en train de faire, en train de changer radicalement le contexte juridique en enquêtant sur Amazon au Luxembourg, en enquêtant sur Google en Irlande, etc. Il y a plusieurs enquêtes et les premiers résultats de l'enquête nous disent quoi? C'est une aide indue à une entreprise d'un secteur dont les autres entreprises du même secteur ne bénéficient pas, au nom de la concurrence libre et non faussée. C'est une subvention des État déguisé, c'est donc illégal. Demain, on va pouvoir aller se plaindre auprès de la Cour de justice Communauté européenne pour dire c'est pas de la concurrence fiscale qui est autorisée, c'est de la concurrence fiscale dommageable. Et ça, ça va remettre en cause la légalité de ces fameux tax rulings et ça va faire un grand mal au Luxembourg.
Alors, j'ai envie de vous poser Valérie Ribaud et à vous aussi Franck Hagal, mais d'abord Valérie Ribaud, est-ce qu'on vit pas en Europe sous une forme de schizophrénie? Parce que ce même Jean-Claude Juncker, il est à la tête aujourd'hui de la Commission, il dit bah il faut réduire les budgets, les déficits, tout ça, il faut respecter les 3% et d'un autre côté comment à réduire les budgets de l'État si en même temps les entreprises qui devraient payer des impôts en France ou ailleurs, comme vous l'avez dit Valérie Ribaud, ne les payent pas?
Je crois que Jean-Claude Juncker gagnerait ses véritables galons de président de la Commission s'il mettait un grand chantier sur la table. Comme il est en première loge pour savoir comment se passe ce mécanisme, vous l'avez rappelé, pendant 18 ans, il a été à la manœuvre sur cette question-là, donc il sait comment ça se passe. S'il lançait un chantier qu'il mettait sur la table très clairement en disant « Voilà comment on va accompagner le CDE pour lutter contre cette optimisation fiscale agressive », je rappelle que effectivement l'optimisation fiscale est légale, puisqu'elle fait partie des lois, mais l'OCDE dit « Maintenant on est allé trop loin ». C'est agressif. Je crois qu'il gagnerait vraiment ses galons de président de la Commission européenne s'il mettait ça sur la table, s'il accompagnait les combats de l'OCDE, s'il soutenait aussi les démarches qui sont faites au Parlement européen et dans les parlements nationaux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et les seules démarches qui vont être engagées seront sans doute devant la Cour européenne de justice où, bah, effectivement, ce sont des aides d'État déguisées. Quand vous devez payer 100 d'impôts et que vous en payez 10 parce que vous avez fait un accord secret avec un État membre, ça veut dire que, dans le fond, il y a quelqu'un qui vous a aidé. C'est de l'aide d'État, c'est ce que la Commission dit, hein. C'est pas nous qui le disons, c'est ce qui est en train d'être dit. Et on sait très bien que les aides d'État, il faut qu'elles soient déclarées, et qu'il y ait une analyse qui soit faite pour voir si effectivement on ne va pas avantager Pierre au détriment de Paul.
Franck Engel, est-ce que les luxembourgeois vont pouvoir vivre longtemps encore comme ça avec ce que je serais tenté d'appeler une forme de schizophrénie ?
Je ne vois pas la schizophrénie. Ce que je vois, c'est que...
Alors allongez-vous, on va en parler.
Nous avons longtemps participé à des démarches qui sont internationalement connues et pratiquées comme centre financier que nous sommes, ensemble avec d'autres centres financiers. Et ces centres financiers évoluent, les pratiques aussi, les mœurs qui les entourent et la législation dans le cadre de laquelle ils opèrent. Sur les aides d'État, j'aimerais dire, la commission est en train d'enquêter, elle va découvrir ce qu'elle va découvrir. Il me semble relativement clair que la commissaire à la concurrence n'est pas femme à rechigner devant la perspective d'aller jusqu'au bout. Elle a déclaré vouloir le faire, elle le fera. Et s'il s'avère que la commission établit qu'aide d'État il y ait eu dans les cas spécifiques qu'elle a sur la sellette, il faudra agir en conséquence. Moi, je ne vois pas a priori d'aide d'État dans un système où tout le monde peut bénéficier d'un traitement vaguement comparable. Et pour qu'il devienne comparable, l'initiative de transparence que Jean-Claude Juncker a mis sur table récemment, il est vrai, mais quand même, pourrait nous aider à y parvenir, parce que dans la mesure où on saurait qui pratique quelle sorte de décision fiscale préalable, sur base de quel taux vis-à-vis de qui, devrait facilement permettre à l'ensemble des autres intervenants de dire, ah ben là, il y a quand même un traitement qui ne frôle pas seulement, mais a atteint la marge et dépassé la marge de l'aide illicite. Cela se verra et cela se réglera.
Jean-Paul Gauzès, c'est un peu compliqué ce que nous explique Franck Engel. Je ne sais pas si tous nos auditeurs ont pu comprendre, mais jusqu'en mai dernier, vous étiez eurodéputé, donc UMP, PPE. Ce qu'on vient d'expliquer les uns et les autres, ce que vous venez d'expliquer les uns et les autres, bon nombre d'auditeurs aujourd'hui le découvrent, mais c'était très connu néanmoins.
Je crois que c'est là qu'il y a, vous parliez de schizophrénie, moi je dis pas ça, qu'il y a plutôt de l'hypocrisie. Parce que les roulines, comme on dit, ou en français les rescrits, existent depuis des années et la France les pratique aussi. Je vais pas parler de la Coupe d'Europe de football, mais on a dispensé de payer les bénéfices d'une passation sur les bénéfices.
C'est François Barin et Éric Woerth qui ont signé la lettre.
Mais je
me permets de le dire.
Madame, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond des choses.
Mais moi aussi, c'est parce que c'est le fond des choses que je préfère dire que ce sont eux qui ont signé la lettre.
Ils ont peut-être signé la lettre, mais donc ces pratiques existent. Si vous prenez par exemple l'amortissement des immeubles en France, l'amortissement du point de vue fiscal, c'est sur 20 à 30 ans, alors que ça devait être sur la durée de vie de l'immeuble. C'est une façon indirecte de favoriser l'investissement. Ceci, ça fait partie de la politique fiscale qui reste de l'autorité des États. Mais sur le principe, je dis, pourquoi hypocrisie ? Parce que d'abord, c'est connu depuis longtemps et que tout le monde l'a parfaitement supporté ou pratiqué tant qu'on n'est pas arrivé à cette période de crise où tout d'un coup, les caisses sont vides et on se dit, il faudrait trouver de l'argent. Alors on raconte aux concitoyens, ah, s'il n'y avait pas les fraudeurs, s'il n'y avait pas les évadés, s'il n'y avait pas ceci, vous paieriez moins d'impôts. J'en suis pas sûr. Mais ceci étant, au niveau européen, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les règles fiscales, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai tiqué sur le mot souveraineté, les règles fiscales sont déterminées à l'unanimité. Donc il suffit qu'il y ait un État qui ne veuille pas avancer pour que ça n'avance pas. Et il y a plusieurs États qui ne veulent pas avancer. Un exemple concret qu'évoquait Franck Engel tout à l'heure. La base unique pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Parce que on parle des taux d'impôt, mais ce qui compte, c'est savoir à quel montant on applique ces taux. Hein, si vous avez 10% d'impôt sur une base très large, ça fait beaucoup d'impôt, et 30% sur une base toute petite, ça fait pas beaucoup d'impôt. Cette base fiscale harmonisée a été mise en chantier par la Commission il y a déjà plus de 5 ans. Et au Parlement européen, qui n'était là que pour avis, pour arriver à trouver une majorité, il a fallu dire que si on appliquait ce système, il serait facultatif. Ce qui est absurde. Comme si on disait, vous savez, la blague belge, on va passer à gauche, et pendant le premier week-end, c'est les camions qui rouleront à gauche. Hein? Donc, ça prouve bien la réticence nationale face à cette harmonisation. Et je le répète, parce que chaque État veut garder ses moyens. Et le Luxembourg peut se permettre d'avoir des taux de taxation bas, parce que c'est un pays qui n'est pas immense, qui a une vraie richesse parce qu'il a de l'expertise, et donc il peut se permettre de gagner moins d'argent sur les entreprises que ne le ferait la France. Je vois mal la France aujourd'hui consacrer beaucoup de temps et beaucoup de force à faire des rescrits parce qu'il n'y a pas d'argent.
De la difficulté de l'harmonisation fiscale en Europe, on va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos avant de reprendre notre débat sur l'affaire LuxLeaks, autrement dit, une harmonisation fiscale est-elle possible en Europe ? A tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Zadania europejskie.
Treffpunkt Europa.
Kuzynion tutaj Europa.
Stawrodromy tis Europis.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, rebonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'affaire LuxLeaks, révélée par une enquête journalistique internationale, a mis en évidence un système d'accord entre les plus grandes entreprises multinationales et le Grand-Duché du Luxembourg. Un système baptisé Tax Ruling qui leur permet de s'affranchir de l'impôt qu'elles devraient payer normalement dans les autres États de l'Union Européenne, là où elles exercent leur activité. L'Union Européenne, confrontée à la montée des populismes, peut-elle survivre sans un minimum d'harmonisation fiscale? Je vous représente rapidement nos invités. Valérie Herbault, députée socialiste, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Frank Engel, eurodéputé luxembourgeois, membre du PPE. Jean-Paul Gauzès, ex-eurodéputé français, membre de l'UMP et du PPE. Et Christian Chavagneux, éditorialiste au mensuel Alternative économique. Alors, Christian Chavagneux, ça représente pour la France ce manque à gagner. On a une idée de ce que ça représente?
On estime généralement les pertes de recettes fiscales annuelles entre 60 et 80 milliards d'euros. Les deux tiers étant le fait des entreprises, un tiers le fait des particuliers.
Le déficit du budget de la France, elle irait à beau.
C'est autour de 87 milliards d'euros.
Donc, on est presque...
Ah oui, on est effectivement, c'est un ordre de grandeur qui se compense. Enfin, en tout cas, on voit que ça se compense.
Alors, la grande nouveauté, et Jean-Paul Gauzès l'évoquait, c'est que bon, il y a encore quelques mois, quelques années, tout le monde savait plus ou moins, en tout cas ceux qui s'intéressaient au phénomène étaient un petit peu au courant, même si aujourd'hui le grand public le découvre, mais on n'y faisait pas trop attention. Christian Chavagneux,
oui, pourquoi? C'est vrai, il y a eu une hypocrisie jusqu'au milieu des années 90, parce qu'on considérait que les paradis fiscaux comme le Luxembourg, c'était Madame Bettencourt et consorts qui le soir allaient voir leur banquier par la porte de derrière. Non, on s'aperçoit...
Et bien, disons romantique avec la valise...
Oui, la valise de billets, voilà, l'exil fiscal d'Elisabeth Taylor en Suisse, c'était un peu du folklore de star. En fait, on s'aperçoit à partir du début des années 2000, ça commence là que finalement les sommes perdues sont assez importantes. On commence à avancer au niveau international. Malheureusement, l'élection de George Bush aux États-Unis va tout planter puisqu'il met toute avancée par terre. Il faut attendre effectivement, comme l'a dit Jean-Paul Gauzès, la crise des subprimes 2007-2008 pour que les caisses se vident d'une part et que les États de manière générale se disent on perd beaucoup, il faut faire quelque chose. Qu'un État en particulier, les États-Unis, disent on perd vraiment beaucoup et commence à mettre la pression pour forcer les fiscs des paradis fiscaux à donner de la formation. Et donc là, pour le coup, il faut saluer les côtés bienveillants de l'hégémonie américaine pour une fois, qui nous a bien aidés, et une mobilisation toujours plus forte de la société civile. On comprend pas, si on prend pas en compte la société civile, on comprend pas pourquoi David Cameron, par exemple, arrive au G20, au G8, et dit il faut absolument lutter contre les paradis fiscaux. On le sait pas en France, mais il y a eu des manifs devant les Starbucks pendant des semaines et des semaines pour dire il faut que vous payiez les impôts. Donc cette conjugaison de crise d'hégémonie américaine et mobilisation de la société civile a fait que, ça y est, maintenant, l'hypocrisie, je pense, est terminée. Le G20 a validé politiquement le fait qu'on s'attaque à la fois aux personnes à revenus aisés et à la fois aux multinationales qui utilisent de manière abusive les paradis fiscaux, et comme le Luxembourg.
Et on peut rappeler qu'évidemment, la Grande-Bretagne est un grand spécialiste des paradis fiscaux. La City de Londres...
C'est le premier paradis fiscal mondial.
Et puis on peut parler de Jersey, de Guernesey, de l'île de Man, enfin, presque à l'infini.
Les Caïmans, ça c'est l'Empire britannique qui est reconstitué, qui est au cœur des paradis fiscaux mondiaux.
Voilà, ça fait plaisir à Frank Engel. Il n'y a pas que le Luxembourg. Alors Frank Engel, est-ce que ce système peut perdurer selon vous?
J'ai l'impression qu'il y a des éléments du système, si vous voulez, qui sont en train de s'éteindre progressivement. Il me semble
ça inquiète les Luxembourgeois, ils vont vivre moins mal, ou plus mal?
Il est vrai que si vous avez un territoire comme le nôtre, qui n'est pas énorme, comme vous le savez, si vous avez une vieille industrie sidérurgique qui ne fait plus vraiment vivre beaucoup de monde, et si les autres perspectives de diversification économique sont limitées pour beaucoup de raisons, et d'ailleurs nombre d'États qui s'attellent régulièrement à la diversification économique partagent des résultats que nous connaissons également, ça ne va pas être plus évident. Je ne vais pas essayer de le cacher. Mais c'est évident aussi que je ne suis pas d'avis que... Tant la nécessité de centres financiers que l'utilité de centres financiers que certaines pratiques de centres financiers soient sur le point de disparaître. Et je ne partage pas du tout l'enthousiasme de certains autour de la table qui disent le G20 a fait je ne sais pas quoi. Le G20 a renvoyé M. Juncker à Brisbane quand il a proposé au niveau mondial la même chose qu'il avait proposé au sein de l'Union européenne, à savoir une offensive de transparence en matière de rescrits fiscaux. Ne faisons quand même pas comme si le monde était en train de devenir plus éthique et uniquement quelques petites pièces d'Europe persévérer dans le péché. La Chine s'en fout bien de ce que nous faisons. Hein. L'État de Delaware, l'État de Nevada, d'autres États du bord ouest des États-Unis se foutent bien de ce que nous sommes en train de faire. Et tant que, pour le formuler de façon assez plastique, tous ces trous ne seront pas bouchés en même temps que nous boucherons les trous européens, les pratiques globalement répandues dont nous parlons ici vont continuer. Alors qui aura gagné ?
Valérie Rabault, Frank Engel a une métaphore plombière. Hein. Quels seraient les plombiers ? Est-ce qu'il faut boucher tous les trous en même temps pour que ça puisse marcher ? Ou est-ce qu'on ne peut pas, ici en Europe, donner l'exemple ?
Non, mais je suis un peu étonnée de ce que j'entends, parce que l'OCDE, c'est pas que l'Europe. Et donc moi, je reconnais que le G20, bon, peut-être toujours un peu timide, mais quand même, a pris à bras le corps, il y a eu 15 propositions de l'OCDE. Donc il y a 15 trous à boucher, pour reprendre la métaphore. 15 ouais, trous à boucher.
Propositions, on verra ce que ça donne.
Oui, oui, c'est 15 propositions, mais qui sont quand même, la manière dont elles sont formulées, elles sont extrêmement concrètes. Quand l'OCDE vous donne un tableau, on dit voilà, si les entreprises remplissaient ça, on arrivera à avoir de la transparence, le tableau, il est déjà fait. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Donc il y a 15 trous à boucher, c'est pas que pour l'Europe, c'est l'OCDE qui le propose, c'est le G20, donc qui est quand même une instance mondiale, qui s'en saisit, même si l'Europe a peut-être aussi à montrer l'exemple sur ces questions-là, parce qu'elle est pas, elle ne lave pas plus blanc que d'autres États. Donc je ne vous rejoins pas sur ce point-là. L'OCDE a fait 15 propositions. Maintenant, c'est à nous de nous en emparer. C'est vrai qu'au Parlement national français, on a tenté d'en faire passer 3, qui ne sont pas passées à ce stade en termes de loi de finances, mais je ne désespère pas qu'un jour elles soient votées.
Pour Jean-Claude Juncker, en tout cas, cette affaire tombe au plus mal. La commission de la dernière chance, comme il l'appelle lui-même, a-t-elle déjà laissé passer la sienne ? L'affaire LuxLeaks, en tout cas, n'a évidemment pas échappé à Courrier International, notre partenaire historique. Gerald Philippe, bonjour. Sur le site courrierinternational.com, on peut lire 2 papiers. Le premier est tiré du quotidien espagnol El País, et le journaliste est proprement scandalisé par le Luxembourg de Jean-Claude Juncker, un pays au cœur de l'Europe qui vide de leurs impôts les caisses des pays membres.
Voilà, c'est un papier de José Ignacio Torreblanca. C'est le chroniqueur sur toutes les questions européennes pour le Grand Journal de Madrid. Il dit que, en fait, Monsieur Juncker semble parodier cette scène de Casablanca où Claude Rains, qui joue le chef de la police à Casablanca, dans le film absolument, et Claude Rains entre dans un bar, le bar de Humphrey Bogart, il dit « Je suis choqué, vraiment choqué de découvrir qu'on joue de l'argent ici ». Et à l'instant après, c'est le croupier qui lui tend une liasse de billets en disant « Vos gains, messieurs ». Alors, Monsieur Juncker, il était le premier ministre de Luxembourg pendant le moment d'énormes évasion fiscale des multinationales. Et voilà, le chroniqueur de El País s'interroge. Il dit que, ben, est-ce que Juncker est un menteur? Donc, dans ce cas-là, il faut une motion de censure contre lui au Parlement européen. Ou est-ce qu'il est complètement incompétente? Ben, dans le cas qu'il est incompétente, eh bien, il faut qu'il démissionne, tout simplement, parce que il n'a plus aucune crédibilité. C'est un papier vraiment plein de colère. Clairement, pour Torreblanca, il faut que Juncker démissionne.
Le deuxième papier de courrierinternational.com est plus inattendu. Et si Jean-Claude Juncker était justement l'homme de la situation, puisque l'évasion fiscale n'a aucun secret pour lui, puisque c'est lui qui l'a mis en place en tant que ex-premier ministre luxembourgeois, c'est en tout cas l'idée défendue par le quotidien autrichien Wiener Zeitung.
Voilà, c'est une espèce de petit article en contre-pied de l'article de Torreblanca. Le chroniqueur, il dit, bah, le Grand-Duché a aidé les multinationales à échapper l'impôt dans la mesure du possible, mais que la Grand-Duché s'est enrichie tout en même temps. Et que pour un chef de gouvernement, en l'occurrence Jean-Claude Juncker, il a fait ce que tout chef de gouvernement devrait faire. Il a démultiplié les richesses de son pays et de ses concitoyens. Donc rien d'étonnant. Et donc le chroniqueur, il s'étonne un peu de l'hypocrisie des critiques adressées à Jean-Claude Juncker. Il dit que bon, effectivement, c'est immoral, si IKEA dégage un bénéfice de 2,5 milliards, il ne paye que 48 000 euros. C'est un problème pour le modèle social européen. Mais puisque Monsieur Juncker sait exactement ce que c'est l'évasion fiscale, eh bien, fait entrer le loup dans la bergerie, et c'est lui qui pourrait remédier tout ce problème.
Merci Jory Philippe.
Merci Daniel.
Ce sont évidemment des papiers à lire sur le site de courrierinternational.com. Alors, Christian, j'avais une petite précision. C'est pas uniquement le consortium des journalistes européens qui ont mis internationaux qui ont mis à jour cette affaire LuxLeaks. On en avait déjà parlé, notamment en France.
On en a parlé en France dans l'émission Cash Investigation, l'excellente émission Cash Investigation. Édouard Perrin, un journaliste français qui a sorti ses documents déjà l'année dernière.
Donc, rendons à Perrin ce qui appartient.
Exactement.
Alors, évidemment, question, est-ce que Jean-Claude Juncker peut être l'homme de la situation, l'homme de la situation de l'harmonisation fiscale, autrement dit, est-ce que le braconnier peut devenir un excellent garde-chasse, selon une formule qui plaît beaucoup au Parlement européen? Jean-Claude Juncker, quelque peu penaud, c'était il y a quelques jours à Bruxelles.
J'avais dit, et je l'ai rappelé ce matin au collège, devant le Parlement européen, par écrit et oralement, que la Commission lutterait contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Et je voudrais que tout le monde sache que ce ne sont pas paroles et paroles, et words and words, des propos libres en l'air, mais que ça reflète l'intention et l'ambition de la Commission. Cela fera partie du programme de la Commission, puisque nous sommes en faveur d'une meilleure transparence fiscale sur le territoire de l'Union européenne.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, alors est-ce que il peut être l'homme de la situation? Ben, j'ai envie de vous poser d'abord à vous, Valérie Rabault, cette question. Sceptique.
On jugera sur pièce. Effectivement, tout à l'heure, je disais que je pense qu'il retrouverait vraiment... Ça lui permettrait d'asseoir sa crédibilité en tant que président de la Commission s'il menait des actions très concrètes et rapidement. Il dit que ce n'est pas juste des paroles. Eh bien, nous attendons des actes.
Jean-Claude Gauzès, Jean-Claude Juncker, que vous connaissez assez bien.
Oui, bien.
Il peut être l'homme de cette situation, l'homme de ce virage qui paraît indispensable et que les citoyens sont en train de réclamer.
Je voudrais faire trois remarques brèves. Premièrement, je lui fais confiance, je le connais, je sais quelle est sa détermination. Deuxièmement, il a été désigné dans des conditions démocratiques, il n'est pas arrivé là par parachutage. Il y a eu un vrai congrès au PPE avec deux candidats.
Mais c'est amusant que le PPE Jean-Claude avait le choix Juncker. Entre Michel Barnier et Jean-Claude Juncker. Le PPE a choisi le candidat peut-être le plus fragile, parce qu'évidemment il était clair que histoire de paradis fiscal
allait revenir sur le terrain. Michel Barnier a fait un très bon parcours, et d'ailleurs le résultat des votes a été un résultat avec un écart, mais un écart qui n'était pas énorme entre les deux candidats.
Enfin, c'est le passé.
C'est le passé. Moi, j'aurais aimé que Michel Barnier soit le choisi, mais ça n'a pas été, mais je fais confiance à Juncker. Troisièmement, la Commission fera des propositions, c'est absolument certain. Moi, où j'attends de voir, c'est ce que font les États membres. Parce que on nous raconte en France, et notamment les populistes, que ce sont quelques technocrates à Bruxelles qui dirigent, c'est faux. La Commission, elle propose, elle décide pas. Et qui est-ce qui éventuellement bloque ou fait avancer les dossiers? En partie le Parlement européen, mais qui n'a pas l'initiative des lois, à la différence de l'Assemblée nationale. Mais c'est surtout les États membres. Et on verra au pied du mur, les vrais maçons. C'est-à-dire si les États membres soutiennent les efforts de la Commission ou s'y trouvent, comme en matière de taxation sur les transactions financières, des subterfuges ou des bonnes raisons de ne pas faire avancer cette harmonisation fiscale qui est indispensable.
Christian Chalagneux.
On verra demain ce que fera M. Juncker. Aujourd'hui, il pose un gros problème politique. Le fait que ce soit les partis d'extrême droite qui déposent une motion de censure contre le fait que M. Juncker a quand même présidé à toutes ces manipulations fiscales et que ce soit le PPE et le Parti Socialiste Européen qui viennent le défendre, ça pose un vrai problème politique. Hein. La politique européenne est un peu cassée en termes d'image vis-à-vis des politiques nationales.
C'est cohérent avec le fait qu'il y a eu un élément politique majeur qui fait que c'est le Parlement, par le biais des suffrages des citoyens aujourd'hui, qui ont choisi le président de la Commission.
Mais en termes d'image, vous voyez que ça pose un gros problème qu'on laisse à l'extrême droite de remettre en cause ce comportement.
Excusez-moi, un peu vigoureux, parce que ça commence à être pénible de voir que les seules choses qui retiennent les informations, les médias, les journalistes, c'est le comportement de gens qui au Parlement ne comptent pour rien, n'ont même pas été capables de faire un groupe et qui de toute façon ne modifieront pas du tout l'orientation du Parlement et qui contribueront éventuellement à gêner la marche de l'Europe.
Vous avez mais la réalité est là.
Frank Engel, il y a problème.
Mais vous parlez de quelle réalité?
On vous écoute.
Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Juncker. Et je partage entièrement avec Jean-Paul Gauzès l'impression que ça devient vraiment pénible. En quoi consiste le problème? Si des extrémistes politiques de tout pays et de tous bords déposent une motion de censure, et si l'ensemble des forces démocratiques du centre de l'échiquier politique se disent il n'y a pas lieu à donner suite à cela, est-ce que si un, deux ou trois, parce qu'il n'y a pas plus de ça, députés du Front National déposent quelque chose contre le gouvernement français à l'Assemblée nationale, tout le reste et l'ensemble des forces démocratiques de France devraient les suivre pour ne pas casser l'image. Monsieur le journaliste, vous êtes en train de gravement manquer à votre devoir. Votre devoir serait d'informer objectivement sur ce qui est en train de se faire. Jean-Claude Juncker a fait des propositions dans le premier mois de son mandat. Nouveau mandat, mandat différent de celui qu'il occupait avant. Il s'est fait renvoyer au G20 dont vous extolez en d'autres circonstances les mérites. Tout cela, pour moi, est la meilleure preuve qu'il est très bien là où il est. Il y restera.
Je constate simplement, regardez mon CV, vous verrez que j'ai jamais fait de politique, et je suis un journaliste, un commentateur. Donc, en tant que commentateur, j'observe quoi? J'observe que on a les grands partis de gouvernement qui défendent un fraudeur fiscal et on laisse, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, monsieur, je ne m'en réjouis pas du tout. On laisse, malheureusement, à des partis extrémistes qui pèsent, vous l'avez dit, pour pas grand chose, monopoliser le débat et défendre, enfin, plutôt, remettre en cause le fait qu'il y a des pays qui ne jouent pas le rôle
de censure. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous savez que M. Farage, chef d'un groupe extrémiste au Parlement européen, député britannique, même dans le paradis fiscal qu'est la Grande-Bretagne, est sous enquête fiscale depuis des éternités pour comportement fiscal très problématique?
Mais je n'en fais pas un héros, monsieur.
Est-ce que vous croyez que celui-là est en droit ou en positure morale de donner des leçons à M. Juncker ou à qui que ce soit d'autre, ensemble avec Mme Le Pen? Mais merci bien.
Valérie Rabault, vous vouliez intervenir.
Moi, je crois que la meilleure façon de sortir de ce débat, c'est de dire on a 15 propositions de l'OCDE.
Faut vraiment en sortir.
Qui ont 15 propositions de l'OCDE qui ont été travaillées pendant 2 ans. C'est pas un truc qui sort du chapeau. Tous les États qui font partie de l'OCDE, moi j'y étais l'année dernière, on a avec plusieurs députés, de droite comme de gauche, c'est pas que les députés de la majorité, on a travaillé, on a apporté un certain nombre de propositions. L'OCDE les a synthétisées sous la forme de 15 recommandations. Si le président Juncker fait des propositions en disant voilà, on a déjà quelque chose clé en main, on peut l'appliquer, je le mets sur la table. Ça sera déjà un très grand pas, et ce grand pas-là, je l'attends.
Comment venir à bout de cette optimisation fiscale, autrement dit de la fraude fiscale? Jean-Claude Juncker, il a un commissaire aux affaires économiques qui est aussi en charge de la fiscalité, il s'appelle Pierre Moscovici, et je lui ai posé la question.
J'ai trouvé sur la table de la commission des dossiers qui étaient passablement sablés, par exemple l'harmonisation des bases de l'impôt des sociétés, ou encore la fiscalité de l'énergie. Je compte les reprendre avec énergie. Je ne préfère pas donner de rendez-vous parce que je ne veux pas qu'on soit déçu. Mais mon intention est bien qu'on fasse des progrès décisifs dès les prochaines années sur ce sujet-là. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs procéder différemment, peut-être pas avec des grandes directives cadres, peut-être avec des choses plus ciblées, peut-être avec ce qu'on appelle des coopérations renforcées, comme on le fait sur la taxe sur les transactions financières. C'est-à-dire que si tout le monde n'est pas d'accord, quelques-uns peuvent avancer, quitte à ce que d'autres les rejoignent ensuite. Mais j'ai un plan, j'ai une stratégie. Et ce plan, cette stratégie, c'est simple. C'est une Europe plus transparente, c'est une Europe plus juste, c'est une Europe plus harmonieuse sur le plan fiscal, et c'est une Europe dans laquelle la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'érosion des bases fiscales sont combattues avec ardeur.
Et pour l'instant, la fiscalité, il faut l'unanimité pour prendre une décision.
Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la colère des opinions, est un facteur très fort, car quel gouvernement, quel qu'il soit, pourra s'opposer à ce mouvement? Croyez-moi, il ne s'arrêtera pas.
Alors, un commissaire plein de bonne volonté et plein d'enthousiasme, Valérie Rabault, deux choses, le problème de l'unanimité et puis effectivement le fait de la pression des citoyens qui monte.
Alors, il y a deux sujets. Il y a ce que peut décider le Parlement européen ou la Commission avec un vote à l'unanimité, puis il y a ce qu'on peut faire dans les parlements nationaux. Nous, on a commencé à travailler avec nos collègues allemands, avec nos collègues du Royaume-Uni aussi, puisque sur les 15 propositions, il y en a déjà certaines qui existent dans des pays qui sont mises en œuvre. Je vais en prendre une très concrète. Nous, ce qu'on voulait, c'était que, par exemple, vous êtes une société de conseil, on vient vous voir, on vous dit, allez, au lieu de payer 100 d'impôts, vous allez en payer 50, et puis je vais me faire rémunérer là-dessus. Ce qu'on voulait, c'est que ces sociétés de conseil donnent leur schéma, disent qu'est-ce qu'elles vont commercialiser, qu'elles le rendent public. Le Royaume-Uni l'a fait depuis 2004. C'est quoi la conséquence de ça? C'est que certaines grandes institutions ont arrêté de vendre ces schémas d'optimisation fiscale. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent pas avoir leur nom en une des journaux. Et ce que nous a dit l'administration fiscale anglaise, c'est que depuis qu'ils avaient mis ça en place, ben dans le fond, ce ne sont plus que des petites institutions qui continuent à les commercialiser, faire des schémas très agressifs, parce qu'elles ont peut-être moins d'intérêt, ou en tout cas, ça les peinerait moins d'avoir en termes de réputation leur nom en haut du Financial Times ou autre. Ce sont aussi des petits pas qui peuvent être mis en place par les parlements nationaux sans attendre la règle de l'unanimité au niveau européen. Alors on continue, hein, effectivement, dans chaque loi de finances, on arrive à déposer un certain nombre de choses qui sont votées, d'autres qui ne le sont pas, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête là le combat.
Pour essayer de faire bien comprendre les enjeux aux auditeurs, Christian Chavagneux, il faudrait commencer par quoi ? Qu'est-ce qui s'impose tout de suite ?
Et comme l'a dit Valérie Rabault, on a maintenant une validation politique depuis le G20 de Saint-Pétersbourg qui œuvre sur deux chemins à la fois. D'un côté, l'utilisation des paradis fiscaux par les personnes à revenus aisés. Et là, on va mettre en place un échange automatique d'informations fiscales. Dès qu'un Français va aller dans un autre pays, on va lui dire, le fisc de ce pays devra dire au fisc français qu'il y a un Français qui vient réaliser une transaction financière.
Ça, c'est le schéma. Le syndrome Madame Bettencourt.
Exactement, tout à fait. Et puis, le G20 de Saint-Pétersbourg de septembre 2013 a aussi dit, on va remettre en cause par 15 mesures, dont 8 ont déjà été présentées, hein, sont déjà sur la table. Tout ça à partir de les pratiques d'optimisation fiscale agressive et non pas de concurrence fiscale et les pratiques fiscales douteuses des multinationales. 8 sont déjà sur la table. Tout ça pour les deux côtés, les Madame Bettencourt et les multinationales, tout ça à horizon 2017-2018 pour la mise en œuvre, puis 2019-2020-2021 pour contrôler que c'est bien mis en œuvre. Donc on laisse en fait à ces pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg, la possibilité de s'adapter. Et ça va être une grosse adaptation. C'est là qu'on va vraiment tester la volonté de Monsieur Juncker. Quand la CNUSED l'été dernier, qui est une institution internationale, nous dit en gros 95% des investissements étrangers qui passent par Luxembourg sont des transactions artificielles. Et donc si le Luxembourg vraiment est remis en cause, il va falloir qu'il enlève 95% de ses flux d'investissement sur lesquels il gagne de l'argent. Là, on touche vraiment aux intérêts au cœur de la place financière luxembourgeoise, qui par ailleurs est remplie de gens tout à fait compétents qui peuvent continuer à offrir des services financiers propres, mais remettre en cause la partie la plus opaque va être difficile, ça va vraiment toucher à fond les intérêts du Luxembourg.
Alors Frank Engel, je sais que vous allez devoir nous quitter sous peu, un mot sur ce que vient de dire Christian Chavagneux.
Je vous ai dit moi-même, il y a quelques minutes, que des centres financiers comme le nôtre évoluent sous une multitude d'influences et que c'est évident que des pratiques qui étaient encore généralement admises hier, ne le sont plus aujourd'hui. Pas que au Luxembourg. Hein. Souvenez-vous qu'il y avait un temps où certains pays en Europe pratiquaient les comptes numérotés. Pas nous d'ailleurs, mais c'était une pratique courante en de nombreux pays.
On peut le citer, c'est la Suisse,
assez anonyme.
Notamment.
Mais c'est aussi l'Autriche. Et c'était d'autres, j'imagine. Et à un moment donné, tout cela a cessé. Ou est en train de cesser. Parce qu'il y a, et là je rejoins ceux qui disent qu'il fallait mobilisation des opinions publiques, parce qu'il y a une frange mobilisée de l'opinion publique, de ce qu'on appelle la société civile, qui est en train de manifester, en partie physiquement, contre un certain nombre de pratiques qui seront à la longue intenables. Ne croyez pas que tout cela n'a pas été aussi un peu anticipé dans les endroits concernés, qui sauront s'adapter aux nouvelles réalités, tout comme nous nous sommes adaptés à des changements de réalité dans le passé. Mais si nous avons fait ce qu'on nous reproche, c'est que c'était toujours A, légal, et B, également fait par d'autres, dont pas des moindres. Moi, j'aimerais voir les États-Unis d'Amérique, tellement bons à donner des leçons au monde dans presque tous les domaines, vraiment démanteler le centre financier opaque et autrement problématique du Delaware. Je n'ai encore rien vu.
Alors, Christian Chavagneux, évidemment, question fondamentale, et Valérie Rabault et Jean-Paul Gossès, question fondamentale, est-ce que les Européens peuvent progresser tout seuls dans un monde qui ne change pas ? Les Chinois, c'est pas vraiment leur préoccupation première.
Détrompez-vous. On a eu encore, il y a quelques jours, un redressement fiscal important sur Microsoft de la part du fisc chinois, qui est très, très en avance avec le fisc brésilien et le fisc indien sur la remise en cause des pratiques fiscales douteuses des multinationales. Non, les pays émergents soutiennent beaucoup beaucoup les États-Unis et l'Europe. L'Europe n'est pas toute seule. Valérie Rabault vous l'a dit plein de fois depuis le début de l'émission. On sait au niveau du G20 que tout ça avance. L'Europe peut être un moteur, peut montrer l'exemple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets de l'ancienne Commission. J'espère que Pierre Moscovici va continuer dans ce cadre-là pour développer les échanges d'informations, pour mettre en place les mesures BEPS, enfin les mesures de l'OCDE dont a parlé Valérie Rabault. On n'est pas tout seul. On peut avancer en commun au niveau mondial. Alors, c'est la première fois politiquement que ça se passe et qu'on va aussi loin.
Néanmoins, quand Frank Engel évoquait le Delaware aux États-Unis, je vous ai vu tiquer.
Non, il a tout à fait raison. Il faut bien sûr remettre en cause les pratiques fiscales douteuses du Delaware. C'est un des problèmes de toutes ces avancées au CDE, c'est que les États-Unis veulent recevoir des informations des fiscs du monde entier, mais ne veulent pas mettre en œuvre la réciprocité et donner les mêmes informations. Mais croyez bien qu'au niveau de l'OCDE, on en est très conscient et que la diplomatie est active en ce moment même pour essayer de remettre ça en cause.
D'un mot, Valérie Rabault, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Bon, j'ai bien compris que c'est en train de changer et que finalement, la rapporteure du budget que vous êtes, 80 millions de déficit d'un côté, 80 millions de 80 milliards, pardon. C'est vrai qu'on parfois on s'y perd. On compte en milliards, on compte en millions. On n'est pas vers l'équilibre, mais on va quand même vers un mieux qui pourrait nous permettre quand même, dans ces conditions, de sauvegarder le système social qui est une des caractéristiques européennes.
Je crois qu'il y a un sujet économique, vous l'avez dit, mais il y a un sujet politique. Si on veut qu'il y ait une adhésion à l'impôt, notamment des concitoyens, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils payent des impôts ou qu'ils payent plus d'impôts parce que d'autres, et notamment des grandes multinationales, échapperaient à l'impôt. C'est aussi la base de la cohésion de notre société. Encore une fois, la contribution de chacun s'est inscrite dans le préambule de notre Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. Et donc ce principe-là doit être réaffirmé via le combat qui est mené.
Valérie Herbeau, Frank Engel, Jean-Paul Gozès, Christian Chavagneux, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Jérémy Besset. Merci aux équipes audiovisuelles du Parlement européen à Strasbourg. Plein de choses vous attendent sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe via RFI.fr et notamment le podcast de l'émission, sans oublier les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Lesesquel, où que vous soyez à Paris, à Bruxelles et même dans le Delaware ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.